Yo les amis, bienvenue sur Paris Central, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis bien entouré aujourd'hui comme vous le voyez. Petit concept aujourd'hui, un concept que j'aime beaucoup pour ceux qui suivent ma chaîne. Et donc j'ai décidé de bien m'entourer aujourd'hui. Et ça va faire peut-être quelques polémiques suivant les 11 de certains. Je vais tout vous expliquer. N'hésitez pas évidemment à liker. Aujourd'hui c'est moi qui les commande, c'est moi qui host. Donc montrez votre enthousiasme, montrez que je suis le host que vous préférez en envoyant un maximum de likes. Et n'hésitez pas évidemment à réagir en commentaire en mettant vos 11 à vous et en évidemment donnant votre avis. Qui a fait le meilleur 11? Bon, il y a eu une petite variante, on va accepter ça parce que c'est le doyen, mais Dreya, ça fait 2-11. Voilà, on reviendra là-dessus. Donc je vous explique. Ouais, mais bon, on va voir. Je vous explique le concept. En gros, on sait que ces derniers temps, Kylian Mbappé est pressenti et vraiment, pour le coup, très pressenti sur le départ. Ça a été confirmé par Foot Mercato, par Fabrizio, par Chiringuito, bref, par pas mal de médias, par Le Parisien aussi. Donc, c'est vrai que c'est le son de cloche qui revient beaucoup. Il y a même Laure Boulot qui en avait parlé aussi sur le CFC, comme quoi ça sentait un petit peu mauvais. Après, rien n'est officiel, évidemment, comme on le voit à la tête de Soura, rien n'est officiel. Et factuellement, il y a toujours une possibilité qui prolonge du coup au PSG. Mais du coup, on va faire comme si Kylian Mbappé quittait le Paris Saint-Germain. Et cet été, on va vous afficher donc nos 11 et vous expliquer quelles recrues on prend et avec quelle équipe on part du coup pour 2024-2025. Et puis, on donnera notre avis petit à petit aussi, rapidement, parce que sinon, les 11 vont durer trop longtemps. Et on va démarrer du coup avec le premier 11. Je pense que vous avez tous compris. Et le premier 11 sera celui de Soura.
Pour moi, j'ai fait quelques recrues, notamment au milieu de terrain et en attaque. J'ai laissé la défense centrale telle qu'elle est, même si je pense que il n'est pas impossible que s'il me reste encore des sous dans la caisse, j'investisse encore une fois pour un défenseur. Mais pour moi, je trouve qu'au milieu de terrain, il fallait deux joueurs qui soient capables de fournir énormément d'efforts au milieu de terrain et de pouvoir et d'avoir une excellente qualité technique au milieu de terrain. Ça, c'était très important. C'est pour ça que j'ai pensé en tant que numéro 6 à Ismaël Bennacer. Alors, si jamais il arrive à bien revenir de ses ligaments croisés et j'ose espérer que c'est le cas, bah c'est un joueur en position de Regista qui pourrait faire énormément de bien à cet effectif au Paris Saint-Germain. C'est un bon ratisseur de ballon. Il a un gros volume de jeu. C'est un joueur aussi qui tend à vouloir évoluer en étant un meilleur passeur et avoir une meilleure qualité technique et avoir une meilleure vision de jeu. C'est ce qu'il avait dit aussi dans son entretien avec le club des 5. Donc il y a pas mal de qualités et d'autant plus que c'est un coût qui peut être assez intéressant puisqu'il a une clause de libératoire à 50 millions qui est sur une certaine durée. Donc il faudra pas traîner si jamais il y a l'envie de faire Ismaël Bennacer. Et je pense que c'est un projet qui peut vraiment l'intéresser de quitter l'AC Milan après tout ce qu'il a accompli au sein des Rossoneri. Donc moi, je partirais un peu sur cette piste-là en tant que numéro 6. Paqueta pour l'accompagner un peu plus haut. Là aussi, ça correspond un peu à ce que veut Luis Enrique dans l'entrejeu. Il a une excellente qualité de passe, grosse vision de jeu. Il a un peu ce grain de folie aussi pour vraiment apporter quelque chose de frais et d'intéressant sur le milieu de terrain. Et pour le coup, c'est un joueur que j'aurais voulu quand il était à Lyon. Malheureusement, il est parti à West Ham. Il est en train de s'imposer comme un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. Il y a beaucoup, c'est peut-être un coup qu'il faut tenter pour moi au milieu de terrain avec Lucas Paqueta parce que c'est aussi un joueur qui a un gros volume de jeu et qui est capable de répéter les efforts. Et bon, bah, style un foufou qu'on a vu, merci l'équipe. Est vrai qu'il y a certains joueurs qui sont même pas prêts physiquement. Bah, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. À la pointe de l'attaque, pour moi, c'est la recrue qu'il faut faire. Osimhen, il faut pas rater cet attaquant-là. Quand bien même ça peut coûter très cher et que les négociations avec le président du Napoli peuvent être assez longues. Je pense qu'on s'est un peu pris la tête avec Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Aujourd'hui, il faut plus perdre de temps. Le Bayern Munich est allé chercher Harry Kane. Le Manchester City est parti chercher Erling Haaland. Nous, derrière, il faut pas traîner. Il faut qu'on arrive à avoir ce numéro 9 pour la durée. Il a que 25, 26 ans. C'est encore un très, très jeune joueur qui a encore beaucoup de marge de progression, même s'il est tout simplement monstrueux. Et en cas de départ de Kylian Mbappé, alors à la base, mon premier choix, ça n'est pas Rodrigo. J'ai souvent dit avec un ami qui supporte le Real que si jamais Kylian Mbappé venait au Real Madrid, si j'étais le PSG, je tenterais le coup Vinicius Junior pour la simple et bonne raison qu'il y a vraiment une possibilité de haranguer ou de moins de dire à Vinicius, regarde, tu seras peut-être pas forcément au sein du projet, ce sera peut-être pas forcément toi la star de cette équipe. Et il y a peut-être la possibilité d'aller ramener un Vinicius Junior au Paris Saint-Germain. Et je suis pas sûr non plus que Vinicius soit réellement content de cette arrivée. Mais derrière, je me rabats sur Rodrigo, qui est un excellent joueur, gros, gros talent, et surtout qui est bien meilleur à gauche qu'à droite, et on le voit souvent lorsqu'il est titulaire au Real Madrid. Pour moi, c'est un coup qu'il faut tenter, puisque à gauche, je vois pas forcément d'autres solutions. Un Rafael Leao, il y a une clause libératoire et ça coûtera très cher, même si, parce que pour moi, Rodrigo, c'est un coup qui peut être un petit peu moins cher, on va dire, même si ça restera quand même assez élevé. Donc c'est un joueur de grosse qualité. Ça sera pas forcément un titulaire indiscutable. Tu peux aussi mettre de la concurrence avec Bradley Barcola. Je le mets pas au placard derrière le jeune français. Donc pour moi, c'est le 11 auquel je partirais si jamais Mbappé venait à quitter le club. C'est vrai que ça peut paraître assez cher quand on voit ce 11-là, notamment les recrues. Mais après, pour moi, si le Paris Saint-Germain était capable de mettre 400 millions d'euros sur beaucoup, beaucoup de joueurs, bah moi je trouve qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être penser à sortir la tirelire pour des joueurs vraiment, vraiment confirmés pour la plupart. Et je pense que si jamais Mbappé venait à quitter le club, bah j'ose espérer que ça permettrait de renflouer les caisses au moins un minimum pour renforcer l'équipe.
Ok, Basto, Dreyas, est-ce que vous avez un petit avis rapidement sur le 11 de Soura?
Il a de l'argent. Il a un gros budget.
Ouais, ça.
Il a un gros budget. Le milieu comme ça fait envie, c'est vrai. Après, devant, j'en parlerai. On parlera tout à l'heure nos compos, peut-être ça répondra en même temps à
Moi,
Soura.
le choix de Rodrigo, en soi, pourquoi pas, mais c'est pas forcément. Enfin, déjà pour moi, ça écraserait un peu trop Rico. Et c'est un joueur qui me plaît, mais je préfère continuer avec Rico. Et après, sinon, tu parlais de
Avec
Vinicius, mais
Rico?
Vinicius,
Avec qui?
avec
Avec
Rico, avec
Barco.
Barco, enfin Barcola, pardon. Et après, tu parlais de Vinicius, à titre perso, Vinicius, je suis pas fan, mais bon, le milieu, c'est bien, mais Bennacer, enfin, est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. Et on a vraiment besoin d'un joueur qui est fiable à ce poste-là.
Ok, bah, moi je suis assez d'accord aussi sur le Rodrigo, dans le sens où c'est vrai que Rodrigo et Vinicius, avec Mbappé, avec Bellingham aussi, qui aspire au Ballon d'Or, mine de rien,
Et
déjà
surtout,
cette
ce qu'il faut
saison.
pas oublier, c'est que le Real, cette saison, est en 4-4 de losange. Donc, si tu prends Mbappé, il y en a un qui saute, obligatoirement.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et à partir du moment où tu as du monde qui se bat pour le Ballon d'Or, qui se bat pour le 11, et on le sait, Vinicius va passer derrière Bellingham, derrière Mbappé et Rodrigo, bah encore plus derrière, c'est vrai que ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Bah dites-nous en commentaire, hein, ce que
Un
vous en
profil,
pensez.
vraiment un profil que vous auriez aimé avoir, vous, Vinicius?
Non.
Moi, je préfère Rodrigo, personnellement. Mais Rodrigo, oui, je prends tous les jours. C'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui, ces dernières années, a vraiment explosé. Et je pense qu'il peut limite aller plus haut qu'un Vinicius.
Oui, je pense aussi. Après, le truc, moi, Rodrigo, le problème, c'est que t'as Barcola. Et Barcola, enfin, toi, autant j'ai aucun problème pour lui mettre un Léao dans les pattes. Parce qu'un Léao dans les pattes, le temps de jeu sera partagé et Barcola aura vraiment l'occasion de montrer de quoi
Ouais,
il
je
est
suis
fait.
pas sûr que le
Et
temps
j'ai
de jeu est
l'impression qu'un
partagé avec
Rodrigo.
Léo.
Attends,
Ouais,
moi, je
je
pense
juste
que c'est
j'appuie.
plus partagé avec Rodrigo que Léao.
Ah, moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Léao, il a des baisses de forme. Il a clairement des baisses de forme. Il a des moments où, alors que Rodrigo, il est méga constant et il est, pour l'instant, il est vraiment.
Cette
Rodrigo,
saison,
il a
c'est
l'habitude d'être
compliqué.
joker. Léao, il est titulaire. Moi, je pense qu'il y aura plus.
Ah, moi,
Léao, il a un
complètement.
plus gros statut que Rodrigo, en fait.
Et surtout que cette saison, pour Rodrigo, c'est quand même un peu en dents de scie cette saison. C'est assez compliqué pour lui de vraiment s'affirmer. Mais de toute façon, ça sera de la concurrence, hein, que ce soit Barcola ou Rodrigo. Mais après, c'est vrai qu'il y en a peut-être un qui va partir avec un cran en avant, ça sera Rodrigo. Parce que bon, bah, un transfert de Rodrigo, ça sera pas 60 millions, ça sera pas comme Ugarte. Ça va coûter quand même assez cher. Mais je pense qu'il y a vraiment une réelle possibilité de pouvoir le faire.
Ok, bon, bah dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, on enchaîne avec le second 11, c'est Basto.
Alors, je m'explique. Dans l'idéal, évidemment, je voudrais un meilleur 6 déjà. Ou un autre 6, un Guimaraes, etc. Mais j'estime on n'aura pas un budget non plus trop extensible. Et donc, c'est pour ça que je ne mets que 3 recrues dans ce 11. Sachant plus qu'il faudra une doublure à Hakimi, etc. etc. C'est aussi de l'argent dépensé. Donc, dans les titulaires, il faut un 9. Je pense que Mbappé part. Il ne faut pas le remplacer par un Léao ou un Rodrigo si on n'a pas assez d'argent. C'est un 9 qu'il faut. Je fais confiance à Barcola. On a pas mal de joueurs d'ailes dans notre effectif. Ils n'ont pas forcément le niveau, mais pour la sortie de banc, ça peut suffire. Il y a un Xavi Simons qui peut revenir, qui peut aussi jouer à ce poste. Donc, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas 36 neufs sur le marché. Il y en a un qui a une clause qui va être sur le départ, Osimhen. C'est une opportunité. On y va. Au milieu, pourquoi j'ai choisi Bernardo Silva plutôt qu'un Guimaraes ou un 6? J'estime que s'il faut choisir, dans l'idéal, encore une fois, il faudrait un milieu plus défensif, relanceur, et un milieu offensif. Mais on regarde comment est notre effectif. On a pas mal de milieux bas. Il y a en plus Moscardo qu'on a signé. Donc, tu te retrouves avec Ugarte et Moscardo qui sont des vrais 6. Tu as Vitinha et Ruiz qui peuvent y jouer. Alors qu'il manque un vrai meneur dans le dernier tiers du terrain, puisque toutes nos occasions viennent surtout des 1 contre 1 sur les ailes. Mais on voit qu'il manque un lien. Il manque clairement un 8-10. Et donc, mon choix est fait plutôt sur un profil comme Bernardo Silva par rapport à un Guimarães, puisque je n'ai pas l'argent extensible, encore une fois. Et enfin, Yoro. J'estime que ça fait partie des opportunités qu'il ne faut pas rater. On sait qu'il va partir cet été. Si ce n'est pas à Paris, ce sera au Real, à Liverpool ou ailleurs. Et je pense qu'un joueur comme ça doit revenir chez nous, surtout qu'il a des qualités qui nous manquent, que ce soit dans le duel aérien, dans la première relance. Donc, Yoro, je le prends et je ne le mets pas forcément sur le banc. Hein. Marquis, Lucas, Yoro est peut-être plus complémentaire que Lucas Marquis avec un des deux. Donc, les deux meilleurs joueront, on tourne. Et voilà, donc ce serait mes 3 recrues phares, on va dire, plus d'autres qui seront peut-être sur le banc, comme je disais, Doublure, Hakimi, etc., etc. Voilà mon argumentaire, basé sur un budget raisonnable.
T'es raisonnable, ouais, moi j'ai été un peu moins raisonnable.
Bah, en vrai, je trouve que, notamment le milieu de terrain là, que tu as proposé avec un Bernardo Silva qui va souvent être dans le half space, comme on dit, bah, pour le coup, je pense que c'est peut-être Vitinha qui aura sa carte à jouer en numéro 6. Et pas Ugarte, parce que là, Bernardo Silva, certes, il a cette qualité technique, en 1 contre 1, il est très bon, mais c'est peut-être pas le créateur réellement qu'on peut penser, sauf dans le dernier tiers du terrain, et je pense que là, Vitinha, il aura clairement son épingle du jeu à tirer, et Lenny Yoro, pour moi, si on rate Lenny Yoro, on n'est pas loin d'une faute professionnelle.
Mais moi, le seul truc où je me pose des questions, en fait, et Saina, j'ai vérifié, Rodrigo, il est bien titulaire hein, cette saison, mais le seul truc où je me pose des questions, c'est Silva, Dembélé. Est-ce que Dembélé ne bouge pas déjà sur toute cette partie? Est-ce que tu n'as pas plutôt envie de renforcer l'autre côté plutôt que ce côté-là? Et après, je sais que Bernardo Silva
joue à gauche,
mais voilà, c'est ça. C'est Bernardo Silva, pour moi, ce serait plus intéressant à gauche. Et est-ce qu'il est aussi bon à gauche? Parce que mine de rien, ça fait pas mal de saisons quand tu prends, que ce soit Monaco, que ce soit à City, où il a quasi essentiellement joué à droite tout le temps, en fait.
Oh, il bouge. Hein.
Oui, il bouge. Mais c'est 80% de son activité. Enfin non, il y a entre les côtés, t'as 80% qui est à droite et 20% qui est à gauche.
Ça fait partie des joueurs qui peut jouer aile gauche, aile droite, milieu 6, milieu droite, faux 9, et qui sera s'adapter. Il a tout. Moi, ça me pose pas de problème.
D'accord. Mais dans ce cas-là, je le mets plutôt côté préférentiel de l'autre côté, parce qu'avec Dembélé, j'ai un peu peur qu'il se mette.
Oui, moi, je.
Ça marche un peu sur les pattes.
Après, c'est le positionnement, c'est juste mis comme ça, mais c'est pas. Moi, j'ai donné ma compo sans regarder le positionnement, axe gauche, axe droit. En plus, autre chose sur Yoro, c'est que Yoro peut jouer axe gauche et axe droit, ce qui est intéressant.
Eh ben, parfait. Bah, Dryas, tu vas pouvoir donner ton avis. On démarre par la deuxième, vu que c'était un peu rapide, comme tu disais tout à l'heure.
C'est la mienne. Alors, la deuxième, oui.
C'est celle de Basto, ouais.
Mais c'est la première.
C'est Mery, Vitinha plutôt qu'Emery, mais.
C'est la première. Bah dans cette configuration là, oui. Dans cette configuration là, pourquoi je mets Vitinha? Bah à partir du moment où je mets Ugarte qui est en 6 et avec un Bernardo Silva, moi je suis assez d'avis d'avoir en fait quand on est dans cette configuration là, d'avoir vraiment un mec qui est là pour lock derrière et d'avoir Bernardo Silva que je vais faire jouer par rapport à ce que disait Soura, que je vais vraiment lui demander d'avoir beaucoup de responsabilités offensives et Vitinha de faire le lien. Et à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un qui est derrière. Mais c'est plus la première que j'ai envie de commenter parce qu'elle me parle plus.
J'ai une remarque sur la 2.
Vas-y, allez. Hop.
Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mis du coup.
Bernardo Silva, côté droit avec Dembélé, tu ne crois pas que c'est mieux à gauche?
Ben justement, c'est pour ça que je voulais la une, mais je les ai pas mis du bon côté, parce que je voulais mettre Olmo à gauche, bien sûr, et Warren à droite. Et à ce moment-là, avec Guimarães et Yoro. Alors déjà, il y a un truc, c'est que pour moi, il est temps, enfin là-dessus, je vais faire hurler, je vais me faire encore beaucoup de haters, c'est qu'il est temps de se débarrasser de Marquinhos. Marquinhos, au-delà de Kylian Mbappé, pour moi, Marquinhos, c'est vraiment le dernier symbole de tout ce PSG où tu as cette relation privilégiée entre la direction et les joueurs. Indépendamment du joueur, on s'est débarrassé de tous les joueurs qui étaient comme ça. Le dernier en date était Marco Verratti. Et je pense que si tu veux vraiment démarrer un nouveau cycle, Marquinhos, pour moi, on peut le laisser partir. Et je fais confiance à Yoro. parce que Yoro, il a montré qu'en Ligue 1, oui, il est très jeune. C'est vrai qu'il est très, très jeune, Yoro. Mais il a montré qu'en Ligue 1, il avait déjà tous les acquis. Donc, la Ligue 1, il aurait presque rien à découvrir. Il n'aurait pas une pression particulière. Et ça s'en serait. Et justement, je partirais plutôt sur Olmo pour aller côté Barcola, mais je ne les ai pas mis du bon côté. Et Warren pour aller côté Dembélé. Et je vais mettre un mec qui est plus créateur derrière avec Guimaraes à ce moment-là.
Ok, une composition que j'aime bien. Personnellement, Guimaraes, pour moi, ça va être un essentiel sur ce mercato. Après, ça va dépendre des moyens. Mais du coup, tu perds Mbappé devant et tu fais confiance à Ramos.
C'est une question de finance, en fait, parce que la différence entre Olmo et Bernardo Silva, c'est qu'Olmo va falloir raquer un petit peu plus. Et après, il y a une critique évidente sur Olmo, c'est que mine de rien, c'est un joueur qui a tendance à se blesser. Et c'est un problème. Mais au niveau profil, pour moi, il a le profil type pour s'interfacer avec Dembélé. Tu laisses vraiment à Dembélé la liberté sur le couloir droit. Barcola, c'est vraiment un joueur d'aile et Olmo pourra s'adapter. Et surtout, je pense que tu pourras avoir un triangle Nuno, Olmo, Barcola qui pourrait être magique. Et c'est là où cette composition parle.
Donc du coup, Colomani, il est sur le banc.
Ah, Colomani,
oui, il est vendu. Ouais.
Voilà, il est invendable, Colo. Non, mais pour moi, Colo n'a pas le niveau. Pour moi, Colo n'a pas le niveau. C'est même pas contre le joueur. Hein. C'est juste qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain. C'est voilà. Ramos, c'est un énorme pari. Hein, et c'est clair. Et dans la deuxième compo, j'ai aussi Mène. Mais voilà, si je prends Olmo, je sais que
avec cet effectif-là, Luis Enrique, il finit par faire jouer Olmo faux neuf et Ramos, il joue pas.
Et c'est la problématique. Mais à ce moment-là, il y a la question. C'est est-ce que tu peux mettre un neuf avec Enrique? Et c'est la grande question.
Et tu peux mettre Asensio et laisser Olmo ici. Hein.
Comment tu dis?
Tu peux mettre Asensio faux neuf et laisser Olmo ici. En vrai, Luis Enrique,
oui, en soi, tu peux. Et en soi, tu as une composition qui est vraiment Enrique compatible. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire une composition qui est vraiment Enrique compatible dans un monde où tu as toutes les équipes qui sont en train de s'armer avec des neufs?
Bah, même Guardiola l'a fait.
Guardiola l'a fait. Enrique l'a pas encore fait.
C'est un peu dommage, sachant que Mbappé part d'avoir autant de qualité en 1 contre 1 sur les ailes et des centreurs comme Nuno Hakimi et de se priver d'un profil comme Ramos. Bon, après, si Osimhen vient, tant mieux.
Même Osimhen, en termes de détente, c'est assez impressionnant.
Ah oui, il est monstrueux. Ah ouais. Osimhen, il est monstrueux. Là, c'est vraiment, je ne prends pas Osimhen parce que je prends Olmo. Et je sais que financièrement, ça rentrera pas.
Ok. Bon, bah écoutez, c'est à moi, les amis. Le 11 que vous attendiez tous. Alors, en vrai de vrai, moi, c'est un petit peu comme Basto, du coup. Mais simplement, j'ai mis Guimaraes. J'espère qu'on aura l'enveloppe pour. Mais pour moi, il est clair qu'on a besoin de se renforcer au milieu de terrain et d'avoir un offensif et un mec plus défensif qui te sécurise plus, mais qui a aussi les qualités de relance. En plus, Guimaraes, c'est jeu court, jeu long. Donc, pour le coup, même le jeu sous pression, etc., il est très, très bon. Je prends Leny Yoro aussi. Bon, là, je l'ai mis sur le banc, mais je suis d'accord aussi avec Dreas. Pour moi, il doit y avoir une vraie concurrence. Et je trouve ça intéressant d'avoir Yoro axe droit et Beraldo axe gauche, deux très jeunes entouré par deux mentors comme Lucas Hernandez et Marquinhos, parce que bah, mine de rien, Marquinhos, c'est un petit peu l'idole de Beraldo. Donc, en tout cas, je garde Marquinhos. Moi, je ne le fais pas partir, même si je le fais tourner et je le mets en concurrence clairement avec Yoro. Mais je pense que ça peut être deux très bons mentors pour ces deux jeunes-là qui jouent en plus de ça axe gauche et axe droit. Donc, c'est très bien. Dans un monde idéal, du coup, moi, j'ai Guimaraes au milieu et Bernardo Silva, parce que pour moi, là, on a le milieu vraiment ultra complet, avec du physique, avec beaucoup d'abattage, beaucoup de courses. Beaucoup de qualités techniques, des joueurs qui se complètent aussi énormément. On a ce créatif là, on a un Regista un peu comme Guimaraes qui peut aussi évoluer un petit peu plus haut. Donc là, je trouve que ce milieu est très très complet. On a Xavi Simons du coup à gauche que je fais revenir évidemment. Pour moi, je prends pas d'ailier parce qu'il y a Barcola qu'il faut développer et qui est très bon. Et moi, vous savez mon avis dessus, je pense qu'il peut devenir un très très grand joueur à l'avenir. Il y a Xavi Simons aussi qui peut jouer. Je l'ai bien mis entre ces deux postes là parce qu'il peut occuper ces deux postes. Et du coup, bah, devant, évidemment, je prends Osimhen, même si j'ai une préférence pour Lautaro Martinez, mais pour moi, c'est trop, trop compliqué d'aller le chercher et beaucoup plus cher. Donc, j'aimerais Osimhen. Et ce que j'aime avec ce 11, c'est que je trouve que c'est très compatible. Tu as aussi un banc de qualité et surtout, c'est très compatible avec ce que veut Luis Enrique, parce que tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont techniques et également sans ballon. Tu as énormément de joueurs de collectif, de joueurs qui peuvent faire les efforts les uns pour les autres. Que ce soit le pressing ou le contre-pressing, tu as des joueurs qui courent énormément. Barcola, Osimhen, Dembélé, ça te gênera énormément les premières relances. Ça a une énorme activité. Pareil pour Warren et Bernardo Silva, qui peuvent vraiment presser très haut, comme le faisaient Marco Verratti et Matuidi à un certain moment, avec un Guimarães qui peut être là aussi et jauger bien comme il faut. Pareil avec Nuno Mendes et Hakimi qui seraient très haut sur le terrain. Donc à la perte du ballon, bah, tu as déjà un Nuno et un Barcola, voire avec un Warren aussi côté gauche et un Bernardo à droite. Tu as vraiment trois mecs dans la zone pour venir gêner et récupérer très haut. Donc moi, pour moi, ce 11, il est ultra complet. Évidemment, ça va être très compliqué et très coûteux. Mais sincèrement, si on peut faire quelque chose comme ça, pour moi, le départ d'Mbappé sera très, très bien compensé. Et je pense que dès l'année prochaine, on peut être déjà très compétitif. Et à l'avenir, dans 2 ou 3 ans, avec des jeunes qu'il ne faut pas oublier, déjà titulaires et aussi sur le banc, avec des Kanginli, avec des Vitinha, avec des Ugarte, avec des Moscardo, des Beraldo, etc., je pense que tu as un vrai, vrai bel avenir.
J'ai la même réflexion, c'est le côté Bernardo Silva d'Mbélé. c'est le même petit bémol que je mets.
Tu peux inverser avec Bernardo Silva qui pourrait être côté gauche, avec Nuno Mendes et Barcola, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Et Warren, c'est vrai que le côté Hakimi, Warren, Dembélé qu'on voit en ce moment, il fonctionne très bien.
Et ça peut se transformer en 4-2-3. Hein. Tu mets Warren qui revient au côté de Guimarães avec
ses joueurs. Oui. Tu peux jouer avec Guimarães, Warren plus bas. Tu peux jouer avec un double pivot aussi si tu veux faire Guimarães, Warren au milieu par exemple, et jouer avec 3 centraux et mettre Nuno et Hakimi sur les côtés. Ça t'offre beaucoup de qualité, beaucoup de possibilités.
Pour recentrer, pour le coup, avoir Simons, puisque moi je le préfère en faux neuf. Effectivement, quand tu es en train de remettre les deux, Warren et Guimarães, tu peux sans problème insérer Simons à ce moment-là, avec Bernardo Silva qui est en train de se reposer, tu as les ailes, c'est vraiment très intéressant.
Ouais, puis en plus de ça, ça peut t'offrir aussi du turnover, parce que Luis Enrique demande énormément physiquement. Donc à la 60e, 70e, tu peux faire rentrer Gonçalo Ramos, tu peux faire rentrer Asensio, tu peux faire rentrer Kanginli, Vitinha au milieu de terrain. Ça va beaucoup tourner aussi sur une saison. Donc un Gonçalo Ramos, mine de rien, aura beaucoup de temps de jeu. On sait qu'Osimhen, dans une saison, il prend quelques rouges, il y a quelques blessures. Donc pour moi, Ramos pourrait jouer, pourrait profiter aussi d'avoir un jeu beaucoup plus collectif, d'avoir des centres.
Ramos, hein.
Dans une saison, c'est du 30 matchs à peu près.
Bah, le problème, c'est qu'on a parlé de turnover, notamment pour cette saison-là. Finalement, quand on prend les comptes, bah, tu n'as pas forcément énormément de joueurs qui tournent énormément.
Tu as Kylian.
Oui, non, mais même... je parle pas forcément de Kylian Mbappé, même au milieu de terrain, pendant les premiers matchs, Warren Zaïre-Emery, comme l'a dit Rasto, Warren Zaïre-Emery, c'est plus une lessiveuse, il est en train d'être pressé comme un citron. Ugarte, bon, il est au placard à un moment. Vitinha, il a enchaîné énormément de matchs.
Ouais, Barcola, les 9 derniers matchs qu'il a pu jouer, il les a joués.
En fait, pour moi, il n'y a pas forcément de turnover. C'est plus à un moment donné, il va se dire, lui, il n'est pas assez bon selon moi, donc je vais le mettre au placard. Et on va enchaîner avec un autre joueur. C'est plus la gestion de Luis Enrique qui doit être à améliorer selon moi, que plutôt de penser à un réel turnover. Parce que franchement, quand on voit l'effectif au début de la saison, on pouvait quasiment faire 2-11 assez distincts et se dire, bon, bah, sur certains matchs, on va pouvoir faire tourner. On va être assez flexible dans la manière de gérer le calendrier. Finalement, on a vu, hein, quand il y avait les joueurs à la CAN et à la Coupe d'Asie qui sont partis, on s'est dit, ah mince, il n'y a plus de joueurs. C'est ballot.
Ah, mais justement, par rapport aux performances qu'il y a eu et qui étaient mauvaises, plus le fait que des fois, bah, tu aies des joueurs qui soient blessés ou pas là, au final, ça a aussi forcé à ce qu'il n'y ait pas de turnover. Mais si tout le monde est là et tout le monde fait de bonnes performances quand il rentre, tu peux avoir un turnover finalement qui s'impose à Luis Enrique. Après, est-ce qu'il le fera, c'est une question.
Il y a aussi l'aspect, enfin, truc que tu disais tout à l'heure, alors on sort du cadre du concept de la vidéo. Mais au niveau des courses et au niveau de demander à ces joueurs de faire beaucoup de courses, au niveau statistique, on est très très loin des meilleurs. On est quasi les derniers en termes de kilomètres parcourus par match. Et même à savoir. Mais aujourd'hui, donc il y a eu un papier dans l'équipe qui mettait en avant le fait que Huberté était très surpris par le peu d'intensité physique des séances. Et donc c'est pas quelque chose qui est très très vrai par rapport à ce coach, en tout cas pour l'instant. Mais on est en dehors du cadre du 11.
Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou veut revenir sur son 11 ou quoi ?
Pour moi, on a fait beaucoup de mercato avec des 40 millions par-ci, 45 millions par là, 55 millions par ci. Quand je vois l'information qui dirait que le Paris Saint-Germain veut enfin recruter après le départ de Kylian Mbappé un grand attaquant, un grand milieu de terrain, un grand défenseur central, si on a été obligé d'attendre 7 ans pour se rendre compte qu'il fallait recruter des trop top joueurs à leur poste, l'année dernière, on a mis 400 millions d'euros. On a mis sur 11 joueurs. Sur la plupart de nos effectifs, la moitié qu'on a mis sur ce mercato, on peut faire au moins deux gros joueurs. Que ce soit Bruno Guimaraes, que ce soit Victor Osimhen. Alors après, il faut qu'ils acceptent de venir, mais comptablement, on a la possibilité de faire au moins deux gros joueurs sur ce mercato hivernal et derrière d'aller compléter certaines pistes. Parce que si au prochain mercato, on nous ressort la même en disant bon, Luis Campos est intéressé par Manuel Pellegrini de la AS Roma, bon là, je pense que j'ai stiffé, il faut le revirer.
Mais au-delà de ça, par rapport à ce que tu dis, on va avoir un mercato qui, à moins qu'il fasse vraiment, comme tu le dis, n'importe quoi, qui va être satisfaisant, parce qu'on était, comme tu l'as rappelé, il y a eu 11 joueurs qui sont arrivés pour pas mal d'argent, mais on partait de loin en fait. Il y avait des équilibres absolument nulle part sur le terrain. On avait tout qui était devant. On a rééquilibré pour partie et ne serait-ce que deux recrues, on est nombreux à en avoir demandé trois, et que c'était Basto qui en demandait deux, quoique il y en avait trois parce qu'il y avait aussi l'Euro. Ne serait-ce que deux recrues, on arrivera déjà plus proche d'une équipe par rapport à ça, et on a mine de rien jeté des bonnes bases.
Ça risque d'être assez bon. Non. On a jeté les bases, mais c'est le mercato. En fait, c'est le mercato charnière cet été, parce que soit tu achètes ces 3-4 joueurs qui manquent vraiment, et tu as une équipe pour plusieurs années qui est cohérente, soit tu te foires, tu le traînes encore pendant 2, 3, 4 ans.
Oui, c'est exactement pour ça que je défends encore Luis Campos et que j'attends de voir cet été pour pouvoir tirer un bilan et juger. Mais clairement, ça va être un tournant. Et si on prend bien ce virage, je pense qu'on peut être très compétitif pour les années à venir. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, nous donner votre avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. On se retrouve très vite pour un prochain live, une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.
Ciao tout le monde.